bien, bonjour, on est toujours content de se retrouver, et là en plus avec un invité pour cette émission Bulle de Jazz, donc qui est en direct le vendredi après-midi. On est en compagnie de Robin Nicaise.
Et bonjour à tous.
Voilà, on continue. Ah, donc eh bien, pendant une heure et demie en sa compagnie, et surtout en compagnie de sa musique, on va aller à la découverte justement de nouveaux horizons. Eh bien alors, bienvenue Robin, ici dans notre studio. Alors tu es un habitué quand même, c'est à plusieurs reprises on t'a eu ici dans ce studio, pour deux raisons, bien sûr parce que c'est l'occasion de présenter tes disques, et puis aussi parce que tu es quand même un musicien issu de la région quand même, voilà, et avec les liens dont tu disais qui t'unissent ici avec la Provence, alors peut-être c'est justement une question, parce qu'on va découvrir ton nouvel album, et je me dis, souvent, ben, les lieux qu'on visite, qu'on traverse, nous inspirent, tu vois. Alors, la présentation de ton nouvel album, on va voir si c'est un lieu particulier qui t'a inspiré, mais voilà, en tout cas, on est bien heureux ici de t'avoir dans le studio.
Eh bien, bonjour Philippe, bonjour Outé, et c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici, dans ce magnifique cadre, de vous retrouver donc dans cette émission Bulle de Jazz. Et je suis venu, c'est vrai, de nombreuses fois, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc tu me parlais donc des lieux,
oui, hein, c'est ça
qui m'inspire et c'est vrai que dans ce dernier opus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux assez identifiés en fait, hein, puisque il y a un titre qui, je crois, qui s'appelle Venise, un autre qui s'appelle Bretagne, etc., etc. Il y a aussi un titre qui s'appelle Autumn in Paris, etc. Donc oui, c'est un petit peu, quelque part, ce disque-là, c'est un petit peu, c'est un peu banal peut-être ce que je veux dire, mais c'est un petit peu aussi un carnet de voyage, quoi. Voilà.
Oui, bien sûr,
les endroits. Et puis les lieux m'inspirent, c'est vrai.
Exactement, oui, c'est ça. Ouais, parce que aussi associé à des lieux, il y a bien sûr tout le visuel qu'il peut y avoir, etc. Mais aussi le moment de sa vie dans laquelle ce voyage s'inscrit. Et comme un peu des étapes, on associe des images à aussi des émotions, des évolutions de sa vie d'artiste aussi.
Et tu as dit le mot exactement. C'est le mot clé à mon avis. Beaucoup de personnes qui me connaissent et qui m'ont vu évoluer. Je trouve que souvent, c'est un mot qui revient, que ma musique est très cinématographique, très visuelle. Et c'est sans doute vrai, puisque, enfin, en tout cas, beaucoup de gens me font ce retour-là. Et c'est vrai que, déjà, enfin, j'aime associer vraiment des images fortes, des images précises à ma musique. Et j'aime aussi prendre le temps de raconter une histoire dans ma musique. Donc c'est lié aussi, voilà, c'est une espèce de roman ou de nouvelle liée à la musique. Enfin, pour moi, la performance musicale n'a pas de propos si elle est pas accompagnée d'une histoire. Ça raconte pas une histoire, en fait, quoi. Voilà. Je pense que c'est quand même un fil commun.
Alors, bien sûr, il y a souvent toujours les histoires sentimentales. Ça, c'est toujours ça. Mais après,
oui, c'est vrai.
C'est vrai que les images, parce que qu'est-ce qui se passe quand t'es dans un concert? Bon, bien sûr, les gens regardent les musiciens, mais ils font pas que ça, toi. Il y a des rêves. Ils ont des images qui leur apparaissent.
J'espère. Hein.
Bah oui, quand même.
J'espère, vrai. Parce que, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier et que j'adore composer. Et jouer sur scène. Pour moi, la composition, je fais souvent la même analogie, c'est comme la cuisine. Quand je suis compositeur, donc je compose uniquement sur mon piano, j'ai l'impression d'être comme un chef en cuisine avec des ingrédients, et je me régale, je me concentre et je me régale à l'idée de faire plaisir en fait à l'auditeur avec tous ces ingrédients que je vais prendre le temps de bien concocter, bien mijoter.
C'est ça, changer les saveurs, les
rythmes. C'est ça, exactement.
Super.
Il y a quand même cette idée de plaisir. Moi, je...
Merci, oui.
Non, mais j'ai envie. Il y a beaucoup de musiciens qui tournent le dos au public, ou qui se moquent un peu du public, ou qui ne pensent pas au public. Et moi, je pense au public et j'aime faire plaisir au public. Alors, il y en a pour qui c'est suspect, mais pour moi, c'est important. J'ai besoin du retour. J'ai besoin de faire plaisir quand je joue, quoi. C'est important pour moi.
Alors, le premier. Alors, en entrée.
En entrée,
j'en ai. Peut-être tiré de ce premier album ou comment ça se passe? Parce que t'en es, parce que comme on va préciser, c'est pas ton premier album du tout. On est sur le numéro combien?
Alors
six.
Je crois que c'est mon numéro 5 sous mon nom.
Oui, d'accord.
Donc j'ai produit assez peu puisque j'ai calculé avant, en venant, j'ai enregistré 5 disques sous mon nom en 20 ans. Donc ça fait à peu près une moyenne d'un disque tous les 4 ans, donc on voit bien que je prends mon temps. Et d'autant plus que j'avais rien édité depuis 10 ans. C'est-à-dire que mon dernier disque, Nouvelle Ère, date de 2010.
Oui, c'est ça sous ton nom, c'est ça. Voilà. Sinon, les Tabasco
étaient... Bon, après, j'ai participé à d'autres disques entre-temps, mais sous mon nom, j'avais rien fait depuis 10 ans quand même.
D'accord, ok. Voilà. C'est bien de prendre son temps aussi, tu vois. Voilà. Rien ne presse, en fin de compte.
Non, moi, j'ai pas
de... Au regard de l'éternité, rien ne presse.
Et j'aime bien prendre le temps, j'aime bien prendre le temps, c'est vrai. Moi, je vous propose d'écouter donc l'introduction du disque qui s'appelle tout simplement Building et qui donne le titre à la première partie de ce disque.
D'accord, construction donc.
Voilà.
Construction de l'album.
On
commence
après,
par les fondations, le hors d'œuvre. Building, l'introduction de ce nouvel album. Donc, c'est bien ça?
Tout à fait.
Donc, il y a une notion d'espace là-dedans. C'est donc on prend possession de l'espace sur lequel on va construire cet album, c'est ça, quelque part?
L'équilibre en composition, l'équilibre est toujours important, c'est comme en littérature. Et pour faire. Comme il y avait beaucoup d'informations et que c'est un album assez riche par la suite, il fallait une introduction qui soit suffisamment stable et solide pour l'équilibre de l'album général.
Oui.
Et j'aime beaucoup, comme ça, écrire des introductions très visuelles, très amples, un peu comme le Pat Metheny Group, par exemple. Pat Metheny Group a fait beaucoup de choses comme ça. Et là, en plus, c'est presque de la musique classique, en fait, quoi. On peut le dire. Hein,
alors, on dit toujours que le jazz, c'est la musique classique du 20e.
Oui, c'est vrai, mais je suis assez d'accord avec cette...
Dans l'exigence, en tout cas.
Oui, je suis assez d'accord avec cette...
Oui, ça se touche, et c'est très, très, très bon. J'ai beaucoup aimé cette entrée, j'ai écouté X fois, et puis voilà, ça, c'est vraiment tirant. c'est le ventre qui parle, et c'est vraiment, ça touche le corps, le cœur évidemment aussi.
Alors c'est encore un disque qui n'est pas énervé, hein. C'est pas du tout énervé comme disque, c'est vrai, c'est un peu à contre-courant de plein de choses aussi. Il y a peu de tempo rapide dans ce disque, si on peut le dire, il y a peu de tempo rapide. C'est vraiment un disque qui prend le temps, il y a quand même des pistes un peu plus enlevées et tout, mais globalement c'est assez contemplatif, surtout que la deuxième partie, on le verra, mais c'est des études pour piano. Donc c'est encore plus... on va du large, calme, on va dire, assez contemplatif, au carrément intime, plus intimiste en deuxième partie. Donc c'est vraiment un disque... j'ai l'impression, moi, avec ce disque-là, de livrer une intimité un peu inédite, en fait.
Voilà. Je pense, dans le temps qu'on vit en ce moment, ça nous apporte vraiment un soutien. Parce que la période de Covid, les gens ils se trouvent tout seuls, ils sont complètement stressés, pas, ils ne savent pas quoi faire. Et un disque comme ça, c'est bienvenu. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé.
La musique...
L'hydrochloroquine musicale.
Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, quand on était enfermés là, pendant un an, à quel point l'art était essentiel, en fait, hein, les livres, les films, la musique.
Oui, c'est pas par hasard que les gens ont pris ça comme une ressource, quand même, tu vois.
Exactement.
Les bibliothèques ont été lues, enfin, les disques ont pris le temps d'être écoutés.
Ben oui, et voilà. Et pour mon cas, en tout cas pour ce disque, le Covid, ce que ça m'a apporté, en tout cas, c'est comme j'ai pas joué pendant un an, j'ai pas fait de concert, eh bien, je me suis concentré encore un peu plus sur le piano. Et je me suis lancé, et pour enfin, j'ai profité de, là au mois de mars, du coup je me suis dit tiens, je vais me prendre par la main, et je vais aller enregistrer mes pièces pour piano que j'avais écrites, parce qu'au départ je les avais écrites, mais en pensant que quelqu'un d'autre allait peut-être les enregistrer, et puis au final, comme je les avais beaucoup travaillé, je me suis dit, ben voilà, vas-y, fais-le toi-même, et donc c'est pour ça que j'ai profité du Covid pour vraiment progresser au piano aussi, et passer le cap et enregistrer au piano. Quoi.
Parce que ce disque est en deux parties, comme tu l'expliquais. Donc il y a une partie qui est instrumentale, le quintet plus un quartet à cordes.
Tout à fait.
Et puis une deuxième partie que tu expliquais, là, qui est
des études pour piano.
C'est ça.
Oui, parce qu'en fait, la première partie, Building, c'est une espèce de concerto en quatre mouvements, on pourrait dire. Hein. C'est quatre pièces, enfin, c'est vraiment une suite, presque un concerto pour saxophone avec quintet jazz, et on est neuf, hein, un quatuor à cordes. Et ça fait 10 ans que régulièrement, comme je compose tout au piano, j'écris aussi des petites pièces, des études pour piano, et j'en ai stocké, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces pièces ? Il va peut-être falloir les enregistrer pour les faire partager. Et donc la première partie a été enregistrée en 2013, hein, donc ça fait quand même, ce disque Building est resté très longtemps dans mes tiroirs, et j'en ai pris que l'essence, avec le recul, j'ai pris que 4 morceaux, on avait enregistré 9 morceaux à l'époque, j'ai pris que 4 morceaux que j'ai rattachés aux morceaux que j'ai composé, enfin que j'ai enregistré cette année. Voilà.
D'accord, c'est ça, pour faire un produit qui ait une certaine cohérence par rapport à ton désir du
moment. Exactement, et puis comme j'avais beaucoup de matière, j'ai essayé de prendre vraiment le meilleur de...
Ah, si ça, t'avais tous les ingrédients.
Voilà, et toi, j'ai eu le temps du coup pour réfléchir et créer, on va dire, une espèce de synthèse des deux projets, voilà.
Comment on pourrait illustrer ça alors, par exemple, musicalement ?
On avait prévu tous les deux de faire un flashback et de faire peut-être un parallèle avec mon album Lumière que j'avais sorti en 2005, qui proposait aussi, sur la piste numéro 1, qui proposait comme ça une introduction qui s'appelait Ouverture à l'époque. Ah,
voilà, alors voyons avec 2005 et avec 16 ans de différence, quels sont les points communs et l'évolution ?
Thank you.
Ah voilà, avec donc ces 16 ans de différence, voilà c'est ça, une entrée en matière apaisante qui, voilà.
Qui rappelle, c'est un peu inconscient, j'ai pas fait exprès, mais il y a beaucoup de, dans ce disque-là, il y a beaucoup de titres qui répondent, qui sont en réponse ou qui rappellent un petit peu des thèmes ou des titres que j'ai déjà développés par le passé et je trouve que là c'est évident qu'il y a, même si l'instrumentation n'est pas la même, il y a un sentiment commun entre l'ouverture, par exemple, de Building et cette ouverture de Lumière, par exemple. Quoi.
Une continuité,
dans le sens
continue.
Très cinématographique, on ne sait pas trop où on est stylistiquement, c'est pas vraiment
oui,
du jazz,
ça.
C'est pas vraiment
oui,
de la musique classique.
Oui.
Et voilà, c'est aussi peut-être ma volonté de... je me suis nourri de beaucoup d'influences, beaucoup de jazz, bien sûr, mais pas que. Et il y a beaucoup de grands saxophonistes qui m'ont influencé, comme Yann Garbarek, par exemple, qui sont pas uniquement des musiciens de jazz. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, je me définis comme un musicien de jazz par défaut, mais j'aime tout autant la musique classique, j'aime le rock, j'aime la musique, enfin, beaucoup
d'accord.
de choses.
Bien sûr, parce qu'en plus, on a cette chance, quelque part, c'est qu'on peut avoir accès à toutes sortes de genres musicaux, tu vois.
Surtout aujourd'hui.
Tu vois, je sais pas, moi, à l'époque, même de Gabriel Fauré ou n'importe quoi, t'avais pas accès à énormément de styles différents, quand même, tu vois.
Ouais.
Et t'étais toujours dans un... C'était assez prévisible, presque, à la limite, ce que t'allais...
L'information circulait beaucoup moins vite, c'est vrai,
oui,
à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est tout instantané avec Internet. Et du coup, il faut faire des choix. Faut prendre peut-être
sans tomber dans des trucs métissés, parce que souvent, tu vois, il y a cette...
J'ai horreur de ça.
Truc,
alors
alors
moi, le truc, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de confrères qui font des disques de jazz avec un morceau rap, un morceau électro, un morceau ceci, cela... Et je dois dire que je trouve ça rarement réussi, ces disques-là, un peu patchwork. Quand on veut, en fait,
quoi.
Qui trop embrasse mal étreint.
Voilà, c'est ça.
Donc moi, je suis plus en recherche, finalement, d'une unité sonore, d'un voyage un peu comme ça, onirique, de quelque chose d'un peu original, avec quand même toujours une espèce de trame, quand même. Hein.
Mais c'est
je crois plus à ça, en fait. Quoi.
C'est plutôt aussi ta façon de jouer, tu donnes vraiment ta marque, quoi.
Oui,
à travers,
son,
tu vois, c'est original, c'est pas un truc
oui.
que tu refais, tu as vraiment, voilà, c'est une création, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais des fois, c'est vrai que dans le mot création, moi, je trouve ça un peu péjoratif. Enfin,
d'accord.
Parce
composition.
Qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont subventionnés, qui répondent à des projets un peu politiques, etc.
Ah, oui, bien sûr.
Et moi, je me suis toujours fait un point d'honneur à pas polluer ma musique avec la politique. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas la politique. Hein. Attention, la politique c'est très important et ça m'intéresse. Mais je veux pas éclabousser en fait. Je veux rester libre de ma création et pas y mettre un message forcément politique derrière. Voilà.
De complaisance.
Il y en a, qui savent très bien le faire. Hein. Quand on écoute la musique de Bob Marley, par exemple, c'est extraordinaire. Hein. Il savait très bien le faire. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je vais pas commencer.
Pendant les classiques, t'as quand même. dans les classiques, t'as les compositeurs. Ils sont. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ils se disent compositeurs. Et puis voilà, ils créent un nouveau son. Mais leur marque, oui.
Il faut savoir pourquoi on est fait. Et moi, plusieurs fois dans ma vie, j'étais tenté ou des gens m'ont approché et j'ai été tenté de politiser un peu mon propos. Et en fait, non, j'ai toujours pensé que pour moi, c'était un danger et une grave erreur. Voilà.
De ma part, alors, j'essaye de comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire, comment on pourrait politiser... Qu'est-ce que ça serait, par exemple, politiser ta musique, toi, c'est-à-dire...
À la mienne, je sais pas.
Ou qu'est-ce que c'est que politiser vraiment la musique? C'est-à-dire aller dans le sens de ce que les gens attendent, un truc...
Oui, bien sûr, mais
tiers-mondiste,
ouais.
ou voilà...
Aujourd'hui, il y a beaucoup de, par exemple... Il y a beaucoup de musiciens qui se revendiquent, avec qui font forcément de la musique avec des femmes, qui parlent des migrants, qui parlent...
Ne serait-ce que dans les titres, tu veux dire.
Il y a quelque chose de mainstream dans la politique, dans le progressisme, qui éclabousse largement les musiciens.
D'accord.
Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste que ce n'est pas mon truc. Voilà.
D'accord, c'est pas ça qui te...
Moi, ce qui m'anime quand je fais de la musique, c'est l'amour de la musique, l'amour de l'art, l'amour de raconter une histoire... Après la politique, je laisse ça. Pour moi, je laisse ça à la porte. C'est autre chose.
D'accord. Okay. Merci. On va écouter quelque chose d'autre maintenant, peut-être. Alors, puisque là, on a fait un petit saut dans le temps entre ta dernière production et puis ton album Lumière de 2005, dans ta manière un petit peu de... Le continuum, ce dont tu parlais, toi, ce continuum de goût. Je me rappelle, Franck Zappa, on lui posait la question, alors tu sais, il disait, alors quelle est votre continuité conceptuelle? Alors il était là, quoi? c'est le craquement du biscuit, voilà. Ouais, c'est-à-dire les choses toujours un peu étonnantes, tu vois.
Ah, oui, oui.
Tu vois, voilà. Pour question idiote, réponse choc, tu vois, voilà, c'était ça.
Ouais, Zappa, il avait toujours l'air de pas y toucher, mais c'était un malin, parce que c'était quelqu'un qui faisait une musique extrêmement exigeante. Ouais. Mais qui teintait ça de folie et tout, mais c'était aussi, il était extrêmement intelligent, bien sûr. Mmh. Et c'était tout sauf bordélique ou chaotique. Ça veut dire que c'était extrêmement érudit, organisé. Donc,
ouais, il y a un continuum justement dans un.
Oui, bien sûr.
Bah,
et
tout le temps,
et
voilà.
On parlait de style. Alors lui, pour le coup, on le reconnaît tout de suite. Hein, comme tous les grands musiciens, il avait vraiment un style, une écriture, un propos qu'on reconnaît
exactement,
tout de suite. Quoi.
C'est ça. Exactement. Sûr. Et ce qui le rend assez
inimitable,
immortel,
complètement aussi, voilà. Inimitable, immortel, tout ce qu'on veut, c'est vrai.
Bon, parenthèse fermée sur Frank Zappa, mais en fin de compte, c'est vrai que quelque part, qu'est-ce que c'est la différence entre le jazz? Moi, des fois, ça m'arrive de passer des morceaux de Zappa dans une émission de jazz. Je vois pas pourquoi, justement, le jazz serait très limité à des formes bien claires. Quoi, tu vois ce que je veux.
Alors là, c'est une question qui revient très très souvent. Alors, si on parle vraiment de jazz, pour moi... Le jazz, au départ, c'est lié à deux choses pour moi. Historiquement, c'est lié au blues et c'est lié au swing. Mmh. Historiquement. Après, le jazz a tellement muté que, évidemment, aujourd'hui, on peut faire un disque, entre guillemets, estampillé jazz, sans qu'il y ait une once de swing, c'est-à-dire que de la musique binaire, du rythme binaire, et sans qu'il y ait une goutte de blues. C'est possible aujourd'hui de vendre un disque de jazz sans... Alors, après, si vraiment on dit qu'on fait du jazz, pour moi, il faut quand même un minimum de...
De ces ingrédients de base,
ben oui,
je veux dire.
Ben oui, parce que, harmoniquement, par exemple, la dernière grande révolution, ben c'est le blues, quoi. Et ça a plus d'un... C'est un siècle et demi, quoi. Et ça a été quand même la grande révolution, hein, cette musique afro-américaine. Et c'est pas pour rien que Stravinsky et des compositeurs comme ça ont cherché à même écrire du jazz.
Oui, ça, oui,
ils ont, pour une fois, les compositeurs classiques essayaient de coller à une tradition orale. Bon, ouais. Ce qui est pas vrai, puisque Debussy l'avait déjà fait avec la gamme Parton et l'île de Java, etc. Bon, bref, on va pas rentrer dans trop de détails, mais le jazz, c'est devenu une marque en fait. C'est ça le problème. Voilà, c'est là où on revient à la politique, c'est qu'aujourd'hui. En France, par exemple, quand je regarde les festivals de jazz, en France ou ailleurs, la plupart du temps, il n'y a plus de jazz dans les festivals de jazz. Mmh. Il y a tout sauf du jazz. Donc c'est devenu une marque, en fait, le jazz, c'est vendeur. Mais il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de musiciens qui ne font plus de jazz et qui vendent quand même du jazz. Et il y a beaucoup de festivals de jazz qui vendent du jazz et qui ne font plus de jazz. Voilà.
Mais on pourrait dire que le jazz, c'est une musique savante, exigeante, qui demande une part d'improvisation est importante, ou justement, voilà, c'est ça, où il y a quelque chose d'innovant. Enfin, tu vois, ça aussi, ça ferait partie des caractéristiques de ce qu'était le jazz au départ, sans être spécialement une musique populaire. Parce que maintenant aussi, l'accès, l'apprentissage de la musique est énormément facilité, si tu veux, tu vois. Ça devient populaire qu'il y ait des bons musiciens. Enfin, je veux dire, il y a un nombre de musiciens importants, de bons musiciens. Tu te rends compte maintenant.
Mais de toute manière, ce qui fait pourquoi c'est difficile aujourd'hui d'être musicien, par exemple, c'est qu'il y a le nombre de très bons musiciens sur le marché a explosé. Mm-hmm. On peut facilement aujourd'hui. En peu de temps, on a toutes les connaissances sur Internet et tout. Il y a des tutoriels
parfaits,
des musiciens incroyables qui livrent leurs secrets. C'est assez facile, en travaillant correctement, d'arriver à un très bon niveau rapidement. Donc, sur le marché du travail de la musique, il y a énormément de très bons musiciens qui arrivent. Donc, du coup, il faut se démarquer. Du coup, chacun essaye de renouveler un petit peu à sa manière le jazz. Donc, du coup, ça donne des tas de visages,
de possibilités.
Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une musique qui est en perpétuelle évolution. Mm. Mais si tu me dis qu'est-ce que c'est le jazz à la base, je te dis,
c'est du blues et du swing.
Non, mais au départ, il y a quand même des ingrédients qu'on peut pas enlever, quoi. Ou alors, sinon, après, c'est comme la nourriture industrielle. Tu peux continuer à vendre quelque chose, mais il n'y a plus rien de naturel dedans, quoi.
Ok,
tu vois,
d'accord. Bon. Toi, tu fais quand même un disque de jazz, alors?
Oui, j'ai je pense que je suis un musicien de jazz. Oui, parce que je joue le blues, parce qu'il y a de l'improvisation dans mes disques, parce qu'il y a quand même une forte dominante de musique ternaire et de swing, même s'il y a aussi beaucoup de musique binaire. Mais je pense quand même faire vraiment cette musique de jazz, oui. Et puis, j'ai jamais mis... Oui, je suis toujours dans quelque chose d'assez acoustique finalement. Il y a pas de machines dans mes projets. Mm-hmm. Je suis pas contre les machines encore une fois. Hein, mm-hmm. C'est très bien. Pat Metheny Group, j'aime beaucoup par exemple, mais il y en a d'autres. Il peut y avoir des machines et tout. Bon, moi je suis dans quelque chose d'assez artisanal, assez acoustique finalement dans l'ensemble. Voilà.
Oui, c'est tout à ton honneur.
Bon, c'est comme ça. c'est ce que je défends, mais je dis pas que c'est. Donc là, je crois qu'on va écouter Waiting for Other's Time.
Allez, on va attendre des jours meilleurs peut-être, et en tout cas nous. Tu vas nous présenter les musiciens alors.
Alors, oui, donc sur ce morceau, donc toute cette première partie, en fait, la particularité de ce disque qui s'appelle Building and Piano Studies, j'ai gardé presque la même mouture, le même quintet que j'avais il y a 10 ans. Mm-hmm. Donc, il y a la rythmique Fred Pasqua à la batterie et Yoni Zenik à la contrebasse. Il y a toujours Sandro Zerafa à la guitare. Et le pianiste a été remplacé par Clément Simon, qui sur le disque joue du piano et du Fender Rhodes sur la première, voilà. Donc ça c'est mon quintet, on va dire, régulier. Et puis il y a l'ajout, donc comme vous avez entendu, il y a l'ajout d'un quatuor à cordes. Voilà, donc j'avais c'est vraiment la particularité de ce projet, c'est que je me suis penché pour la première fois sur l'écriture d'un quatuor à cordes. Et c'est pas tous ceux qui connaissent les quatuors à cordes, qui aiment la musique de chambre, savent que c'est magnifique, mais c'est très compliqué de bien écrire pour quatuor à cordes, de trouver l'équilibre, c'est très difficile. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail pour arriver à un résultat qui me semblait satisfaisant. Alors le quatuor à cordes est composé de Youri Bessière au premier violon, Fanny Lévesque au violon numéro 2, Alain Martinez à l'alto et Consuelo Uribe au violoncelle. Donc la mouture, donc deux violons
alto
et violoncelle, on va dire que c'est la mouture classique du quatuor à cordes. Voilà.
Alors tu les as rencontrés dans le métro par hasard?
pas par hasard, je cherchais des gens et j'ai trouvé comme ça. Au début j'avais essayé avec un trio à cordes et j'étais pas vraiment satisfait, donc j'ai changé, J'ai demandé à des gens, on m'a renseigné, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain.
C'est un quatuor qui fonctionnait déjà ou
non?
C'est toi que j'ai créé pour l'occasion. Quoi, d'accord.
Et c'était d'autant plus difficile que si j'avais pris un quatuor qui existait déjà, ça aurait été plus facile. Alors, or là, les musiciens ne se connaissaient pas forcément entre eux, donc il a fallu que déjà ils apprennent un petit peu à jouer ensemble,
oui.
Et qu'en plus je les intègre au quintet. Donc ça a été
un tour de force.
Ouais, c'était quand même un tour de force. Et en gros, quand Nouvelle Ère est sortie en 2010, j'avais déjà commencé à réfléchir sur ça, et on a enregistré seulement en 2013. Donc entre 2010 et 2013, j'ai écrit les partitions, j'ai répété, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a enregistré qu'en 2013. Et...
Voilà. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, sur cet album-là, c'est des enregistrements qui sont de périodes différentes.
Oui, alors toute la première partie, là, les quatre mouvements de Building, c'est enregistré en 2013 à la Buisson.
D'accord.
Et la deuxième partie qu'on va écouter après a été enregistrée cette année, en 2021. Donc en fait, quand vous achetez ce disque, vous achetez finalement un disque qui a été fait sur 10 ans, quoi.
Ok.
Donc c'est quand même... En tout cas, dans mon parcours, c'est vraiment unique, quoi.
Oui, j'imagine dans la musique classique, c'est assez beaucoup plus courant. Il y a des
œuvres, oui,
j'imagine,
qui ont été faites.
On reprend, comme les tableaux, même des fois, il y a des peintures qui sont faites à un moment, commencées là, terminées à un autre, parce que il faut avoir le recul, peut-être, pour justement les analyser, non?
Ah ouais, en musique classique, moi j'ai beaucoup de disques à la maison de musique classique où il y a telle version à telle époque, telle version, même plusieurs concerts, plusieurs années avec plusieurs chefs d'orchestre sur des thématiques. En jazz, c'est déjà plus rare.
Oui, oui.
Donc, au début, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être un peu risqué. Puis après, finalement, je me suis aperçu que vraiment, mon matériel correspondait parfaitement, que ça allait pouvoir fonctionner. Effectivement, je trouve que, après, les gens me diront ce qu'ils en pensent, mais je trouve que ça fonctionne bien, quoi.
D'accord, par rapport, en tout cas, au projet que tu te faisais.
Voilà, c'est ça, par rapport à l'idée que je me faisais du disque dans son ensemble, quoi.
Donc Building, c'est aussi Building, c'est pas, tu vas pas parler des maisons ou des immeubles, mais plutôt sur une construction, c'est ça?
Alors ça a un double sens, et ça, le sens profond, c'est c'est aussi construire à la transmission, parce que c'est un disque déjà. Donc déjà, je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Émile et qui vient d'avoir 4 ans. Donc il y a deux morceaux dans ce disque qui s'appelle. Il y a un morceau qui s'appelle Émile et l'autre qui s'appelle Émile 3 ans après. Donc déjà deux morceaux qui sont directement inspirés par mon fils. Donc il y a l'idée déjà de transmission à mon fils. Il y a aussi un sens plus caché, c'est que à l'époque où j'ai écrit et enregistré ce disque, j'ai perdu mon papa. Donc ce disque est un hommage à mon père aussi, qui adorait la musique et qui adorait le piano. Donc voilà. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'hommage. Et c'est aussi un disque en hommage à Edouard Schaap. Et c'est ce que je dis dans le disque. C'est le grand-père que je n'ai jamais eu, puisque moi, j'ai connu aucun de mes grands-pères, en tout cas. Et ce monsieur, Edouard Schaap, qui habitait à Oraison, qui était à la retraite pendant très longtemps à Oraison, m'a transmis son savoir, beaucoup de son savoir, et m'a m'a donné les premières gammes blues à travailler. Et à l'époque où je participais à l'harmonie d'oraison, eh bien, j'allais prendre des leçons particulières chez lui. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé. Et comment surtout, qui m'a beaucoup valorisé, qui m'a beaucoup aimé. Et j'ai toujours considéré comme mon grand-père de cœur, quoi. Donc, ce disque, c'est vraiment un double hommage à mon papa et à cet homme, Edouard Schaap. Voilà.
Et une volonté de transmission aussi aux générations qui suivent.
Et donc, voilà, il y a aussi mon fils. Donc, c'est vraiment un disque rempli d'émotions, quoi. Okay. C'est un disque rempli de sentiments, quoi.
Entendu. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Alors, on avait parlé peut-être de mettre en perspective, donc, parce que là, ce morceau s'appelait Waiting for Other Times, qui veut dire en français, donc,
dans l'attente
des jours meilleurs.
De jours meilleurs, oui.
Et j'ai enregistré, donc, sur un disque qui s'appelle La Flamme et la Fumée, en 2001, un morceau qui s'appelle En attendant des jours meilleurs, qui était la version française et qui était la version en trio de l'époque. Thank you.
à l'écoute de ce qu'on vient d'entendre, alors est-ce qu'on on traverse des jours meilleurs?
Alors là, quand j'ai enregistré La Flamme et la Fumée, donc c'est en 2001, j'avoue que j'étais dans une période beaucoup plus, peut-être plus contemplative et plus sombre qu'aujourd'hui, puisque déjà, il y a plus de 20 ans, depuis j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai eu un enfant. Je voulais faire ce parallèle, puisque j'ai écrit voilà, quelques années après Waiting for Other Times, qui est clairement le pendant, on va dire, le pendant positif
de ce morceau.
Parce que c'est quand même un morceau qui est assez grinçant, assez triste. Et j'ai moi-même, plus jeune, traversé des phases un peu de déprime, voire de dépression et de questionnement, d'anxiété par rapport à mon avenir. Puisque forcément, quand on est musicien, bah, c'est quand même un avenir assez incertain, c'est pas un métier comme un autre, et les gens nous le font bien ressentir. Donc plus jeune, j'ai eu des phases un peu de découragement aussi, de désœuvrement, d'anxiété, de doute, voilà. Et ce morceau-là illustre parfaitement...
l'état d'esprit dans lequel tu étais à l'époque.
Voilà, c'est ça.
Et donc, ça correspond des fois aussi très bien à des thèmes. Moi, je l'utilise souvent pour les infos parce que comme c'est des thèmes difficiles, ben, c'est pas, tu peux pas mettre du swing ou du truc gay ou du latino sympathique. Ça parle profondément.
Merci. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, c'est le côté visuel et cinématographique, c'est-à-dire que moi j'ai toujours besoin de scénariser un petit peu ma musique, même beaucoup. C'est pour ça que pour moi, les titres de mes morceaux, je mets beaucoup de temps à les établir en fait. Quand j'envoie le morceau à la SACEM, c'est que j'ai trouvé le titre, c'est que non seulement tout a été écrit, mais que j'ai trouvé le titre. Mm-hmm. Tant que j'ai pas trouvé le titre, pour moi le morceau n'est pas complet.
Ouais.
Et alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui se moquent du titre et qui mettent exercice 1 ou tune 1 et qui, par exemple, Thelonious Monk, ils n'avaient rien à faire des titres, et c'est même souvent des journalistes qui mettaient des titres à sa place. Donc il y a des titres célèbres de Monk qui ne sont pas de lui en fait. Eh bien, moi, je suis l'anti-manqueur. J'ai l'espèce de manie du contrôle où je contrôle tout de A à Z, la musique, le titre. Et le titre, pour moi, peut-être à tort, mais en tout cas, le titre, pour moi, doit refléter vraiment le morceau.
D'accord, complète l'information, dirige un peu, c'est ça, voilà.
Dirige un peu et oriente un peu l'écoute, peut-être, de l'auditeur.
D'accord.
Alors, peut-être que c'est un tort, après tout, que c'est une limite que je me fixe. Je sais pas, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, quoi.
Si tu écoutes Sherazade, tu vois tout de suite, tu vois des images orientales, forcément, qui vont suggérer.
Moi, c'est vrai que je fais partie de cette tribu de musiciens qui aiment bien donner un titre
très évocateur. Suggestion déjà, c'est ça. Ouais,
par exemple, moi, j'adore Maurice Ravel, et quand il écrit « Jeux d'eau », par exemple, ou « Une barque sur l'océan », je vois la barque sur l'océan, je vois les jeux d'eau, ou Debussy, « Prélude d'après-midi », avec cette flûte languissante au début. Je vois tout, je vois le fun. Donc, la musique classique, pour ça, m'a donné cette leçon-là, quoi, qu'il fallait le fond et la forme, en fait, quoi, voilà. Alors, je ne sais pas si je le fais toujours avec beaucoup de bonheur, mais je m'efforce, en tout cas, de donner un peu de fond et de forme, quoi.
J'entends bien.
Je crois que là, on avait prévu, Philippe, de revenir à Building, à une piano studies. Et peut-être de rentrer dans cette deuxième partie, du coup, qui est un peu...
Différente de tes précédents albums, puisque là, sur cet album-là, tu joues du piano, donc...
je me suis lancé un petit peu... Alors, c'est une vraie prise de risque, je vous cache pas. Alors, en quelques mots, moi, j'ai toujours été attiré par le piano. J'ai pris quelques cours de piano au conservatoire de Manos, quand j'étais au lycée. Donc, j'avais 16-17 ans. J'ai appris les bases de l'harmonisation, des standards, on va dire, au piano à l'époque. À l'époque, c'était Julien Armani, professeur au conservatoire de Manos, qui m'avait donné les bases.
Multi-instrumentiste.
Voilà, avec Julien, notamment, très bon pianiste et arrangeur aussi. Donc, il m'avait donné les bases, et puis pendant des années, comme ça, j'ai même acheté un piano, j'avais un piano chez moi, et puis pendant des années, j'ai pris l'habitude, effectivement, de composer au piano, mais ça a toujours été, pour moi, vraiment un instrument de composition. Voilà.
D'accord.
Et puis, forcément, avec le temps, j'ai joué tous les jours, j'ai commencé à travailler d'autres choses, aussi des standards, j'ai commencé à à vouloir jouer autre chose que ma musique au piano, forcément. Et puis, je me suis pris au jeu de... Je me suis dit, à un moment donné, tiens, pourquoi j'écrirais pas juste des morceaux pour piano solo, du coup, puisque j'ai toujours écrit du piano que j'allais transcrire en gros pour un groupe que j'allais orchestrer, et je me suis dit, ça serait bien pour une fois d'écrire vraiment des pièces pour piano solo. J'avais jamais fait ça, donc je les ai composées, je les ai travaillées, et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je ferai appel à des musiciens professionnels, des pianistes professionnels pour jouer ces pièces. Puis au bout d'un moment, je les avais bien en doigt, il y a le Covid qui est passé par là, je faisais pas de concert, et je me suis dit, mais tiens, si c'était pas le moment justement de louer un studio, de travailler mon piano, et de proposer un disque un peu différent, et de jouer moi-même mes études. Et c'est ce qui s'est passé, et j'ai complété donc cette année, je suis rentré là au printemps à Paris, au studio Prado, et c'est Pierre Dachery, donc qui coproduit d'ailleurs le disque avec le label Clapson, qui m'a fait l'amitié de me faire confiance et de coproduire le disque. Et c'est lui qui m'a enregistré au piano. Quoi, voilà.
Ben, sans plus tarder, on va découvrir...
Automne, une pièce courte qui s'appelle « Autumn in Paris ».
J'ai le souvenir d'un entretien qu'on avait sur les difficultés que tu exprimais d'être musicien à Paris. Et je me rappelle, tu disais, ouais, j'ai même des copains, c'est tellement dur pour eux de répéter qu'ils jouent dans leur voiture ou ils vont dans le bois de Boulogne ou je sais pas quoi pour pouvoir jouer.
Ouais, c'est vrai.
Alors, c'est sûr quand tu joues du saxo ou voilà. Mais le piano, c'est l'avantage, c'est que tu peux jouer du piano électrique quand même. Tu peux jouer avec un casque, tu peux ne pas déranger les voisins. C'est donc aussi une facilité quand même de pouvoir jouer dans n'importe quel lieu, quoi. C'est ça, non ? Il n'y a pas cette possibilité du fait d'avoir des pianos électriques ou des choses comme ça.
Moi, c'était surtout, comme on en parlait en antenne, c'est surtout que pour moi, le piano, c'est vraiment l'instrument pour composer.
Oui, c'est ça.
Et quand on regarde l'histoire de la musique, il y a énormément de compositeurs qui étaient pianistes et qui passaient par le biais du piano pour écrire.
Oui.
Et moi, toutes les mélodies, tout ce que je trouve en musique, c'est toujours par le piano.
Mmh.
Donc, c'est vraiment devenu un instrument, un second instrument naturel pour moi. Et j'en joue tous les jours, quoi, vraiment, j'en joue vraiment tous les jours, et j'adore cet instrument, j'adore chercher sur le piano, et voilà, quoi, c'est vraiment devenu...
Une évidence.
Une évidence, voilà, pour moi, le saxophone, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, c'est l'instrument soliste et tout, mais pour moi, toutes les fondations, toute mon énergie et ma pensée musicale passent par le piano, par le filtre du piano, toujours, quoi.
Ok, ouais.
Et donc là, on a entendu c'est des miniatures un peu, ces études pour piano, c'est vraiment des miniatures dans le sens où c'est des morceaux qui font tous entre 1 minute et 2 minutes, donc c'est très court, je voulais que ça soit assez court, très synthétique, ça raconte une petite histoire à chaque fois. Et le morceau s'appelle Autumn in Paris, qui a été d'ailleurs composé du coup l'automne dernier à Paris, pendant le confinement. Et c'est un morceau clin d'œil qui fait écho à un autre de mes morceaux que j'ai enregistré il y a 10 ans. Qui s'appelait Printemps à New York. Voilà. Donc Printemps à New York, Autumn in Paris, c'est vraiment le pendant, le miroir de...
Comme tout à l'heure, c'était le cas avec
Le
Temps
à
venir. Et ben, on va écouter sans plus tarder, bien sûr, le Printemps à New York. qu'est-ce que ça t'a fait d'aller donc à New York? C'était un passage incontournable quand on est musicien.
Oui.
Hein, on se dit, ah, faut quand même y aller à New York, se frotter avec la fine fleur ou quoi.
Quand on prétend faire du jazz, comme c'est mon cas, passer à New York, évidemment, ça a quelque chose
d'incontournable.
Incontournable et d'initiatique aussi. Mmh. Alors moi, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté que 15 jours. J'ai des amis qui ont habité plusieurs années. Voilà, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y rester très longtemps, mais déjà, ce que j'ai vu, ressenti, ce que j'ai vu... Bon, déjà, j'ai compris que c'était vraiment leur musique, le jazz. Que, je veux dire, quand dans les McDo à New York, il y a Ella Fitzgerald ou Charlie Parker, on comprend que c'est leur musique, hein, puisque c'est... Il n'y a aucune chance en France, dans un McDo, d'avoir ce genre de musique, par exemple. Oui, puis il y a une énergie, voilà. Après, New York, c'est pas non plus les États-Unis. C'est comme si on dit Paris, c'est la France.
Non.
Donc moi, je connais pas les États-Unis. Je suis allé à New York et New York regorge de
talent.
Bah évidemment, ça restera, je pense, le point névralgique de cette musique. Il y a un concentré incroyable de grands musiciens. D'ailleurs, moi, j'ai appris récemment pourquoi on appelait New York la grosse pomme. Est-ce que tu le sais, Philippe?
Ah non, pas du tout, non.
Voilà. Ben en fait, j'ai appris ça dans un bouquin. C'est que les musiciens, donc, en fait, les musiciens américains, quand ils se sentaient prêts, ils disaient « je vais aller à New York pour faire carrière ». Et en fait, il y avait tellement d'appréhension et de stress d'aller à New York qu'en fait, on avait la gorge serrée et la pomme d'Adam serrée.
Ah oui.
Et en fait, la grosse pomme, c'est la pomme d'Adam, en fait. C'est qu'on a le stress, on a la gorge nouée, en fait. Je trouve ça... Et en fait, c'est vrai qu'il y a une telle émulation, il y a un tel niveau musical... que c'est... Enfin, moi, je me rappelle que j'étais revenu de là avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Ça m'avait permis de relativiser beaucoup de choses aussi. J'ai beaucoup appris en peu de temps. Et j'avais enregistré ce disque, La Nouvelle Ère, dans la foulée. Et d'ailleurs, ce titre, Printemps à New York, je l'avais écrit vraiment au retour de New York. Et du coup il ouvre le disque. Et voilà, je voulais vraiment...
D'accord, dans cette énergie que tu avais senti dans cette revitalisation ou quelque chose comme ça.
Ouais, et en plus, c'était le printemps. Donc, printemps plus New York, il y avait vraiment une énergie
un renouveau,
terrible. Voilà. Ouais. Et l'année dernière, donc, j'ai écrit son pendant 10 ans après, qui s'appelle Autumn in Paris.
Ouais.
Et voilà, donc c'est un petit clin d'œil, quoi. Et là, pour la suite, j'avais prévu de vous faire écouter, donc toujours dans les pièces pour piano. Donc, alors, moi, comme je te disais, Philippe, et comme je disais à Outé aussi, j'ai grandi avec la musique classique. Et avant de faire du jazz, je chantais dans des chorales. J'ai étudié au conservatoire de musique classique. J'ai passé un bac littéraire avec option musique classique. Bref, la musique classique m'a toujours accompagné. Et notamment parmi les grands compositeurs, évidemment, Claude Debussy m'a toujours accompagné toute ma vie. Je suis un grand fan de Claude Debussy. Enfin, ça me paraît difficile de ne pas aimer la musique de Claude Debussy, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, moi, j'adore sa musique. J'essaye régulièrement de jouer sa musique au piano, mais c'est extrêmement difficile et j'y arrive pas. En tout cas, j'ai mis du temps, mais j'ai enfin écrit une pièce qui est en hommage à Claude Debussy et que j'avais envie de vous faire écouter. Qui s'appelle « Jeu de quinte » et « Jeu de cartes ».
Oui. Bah, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a un continuum quand même dans le... Quelque part, c'est ça, il y a aussi des gens qui initient certains mouvements et puis tu prends le relais ou pas, quoi, tu vois. Je vois ça, il y a quand même, j'imagine que quelque part, c'est pas plagier quelqu'un que d'essayer de prendre qui survive un petit, enfin, comment dire, de continuer sa trace dans le temps, non? Il y a des chemins qui sont tracés un peu, des esthétiques, par exemple, qui sont découvertes, qui sont proposées et qui ont après qui offrent des possibilités d'être encore développées. Pense que tu vois ça aussi.
En ce qui concerne,
c'est pas du plagiat ça.
Non, là c'est vraiment l'hommage.
Hein. Un hommage. Voilà,
Debussy m'a toujours accompagné et j'ai mis du temps à me sentir un petit peu les épaules pour vraiment écrire quelque chose. Un hommage quoi. Voilà, je vais avoir 43 ans et j'ai attendu longtemps. Et la musique de Claude Debussy est tellement magnifique et tellement elle a l'air simple à l'oreille, mais elle est tellement difficile à jouer. Enfin, moi, au piano, je me rends compte à quel point c'est difficile. De toute façon, cette période française avec Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Maurice Ravel et tout, l'école française, ça a été un âge d'or. Hein. C'est vraiment un âge d'or. Et moi, j'ai beaucoup écouter. Par exemple, les nocturnes de Gabriel Fauré. Tout le monde parle des nocturnes de Chopin. C'est très beau. Mais les nocturnes de Gabriel Fauré, c'est incroyable. Enfin, voilà, il y a tous ces compositeurs et Debussy, voilà. Que ça soit son quatuor à cordes, ses orchestrations ou sa musique pour piano, moi, c'est vraiment une musique qui continue à me nourrir. Ça fait vraiment partie des musiciens comme Bill Evans, Chet Baker, Miles Davis, des gens que j'écoute régulièrement tout le temps, quoi. Voilà. Donc, j'aurais jamais été un musicien professionnel sans ces gens-là, quoi. Et c'est ces compositeurs qui continuent à me donner envie de travailler, qui me nourrissent, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que je suis pas trop original de dire que Claude Debussy, à mon avis, est... Enfin, voilà, il me nourrit, mais comme il a nourri il y a pas longtemps, c'était le centenaire de sa mort. Et c'est un compositeur qu'on n'a pas fini de célébrer parce qu'il est incroyable, quoi. Voilà.
C'est ça, dont la renommée ne s'arrête pas simplement aux frontières de l'Hexagone.
Pas du tout. Il était à la fois terriblement indépendant et il avait une intelligence musicale hors norme. Il avait tout compris. Il a eu l'intelligence de ne pas tomber dans le piège de Wagner, d'imiter Wagner, alors que tous les compositeurs de l'époque voulaient imiter Richard Wagner. Mmh. Lui, au contraire, il admirait Richard Wagner, mais il a dit surtout ne pas faire la même musique. Il a eu le courage d'être lui-même et c'est fabuleux, quoi. Il a fait une musique incroyable, quoi.
Sinon, tu vas assister à des concerts quand même? Non, il n'y en a plus trop.
Covid, alors justement, quel est le dernier concert que j'ai vu? C'est une bonne question. Je crois que le dernier concert auquel j'ai assisté, figure-toi, c'était pour mon anniversaire au mois de novembre dernier, il me semble. C'était Joe Lovano au New Morning.
Oui.
C'était un concert fabuleux.
Ouais.
C'était ma compagne, Anna, qui m'avait offert la place. Et je me demande si je suis allé voir d'autres concerts depuis. Mais on a tellement vécu une période bizarre que... Peut-être que je suis allé voir d'autres concerts depuis.
Parce que ça aussi, ça...
Je suis allé voir des copains en concert, ouais.
D'accord.
Je suis allé voir des copains en concert.
Oui, oui. Mais ça nourrit quand même le musicien de voir, parce que sinon tu restes dans ton... Enfin, on peut concevoir aussi que des gens veuillent être libres de toute influence, etc. Mais
c'est pas possible. C'est pas possible. On est toujours influencé parce que il faudrait naître sur une île déserte avec personne pour avoir aucune influence musicale, mais c'est pas le cas. Depuis qu'on est né,
intentionnellement, si tu veux se couper, et toi, je pensais à Glenn Gould ou des trucs comme ça. Toi, des mecs qui vont se retirer du monde.
J'y crois pas, moi, ça.
Ouais, en fait, je crois qu'on est un mythe.
Oui. Parce que depuis qu'on est tout petit, les enfants, ils apprennent par imitation déjà.
Oui, bien
donc,
sûr.
Depuis qu'on est tout petit, on minimise toujours le côté grégaire, on va dire, un petit peu de l'être humain, mais on est un animal d'abord social.
Mm-hmm.
Donc on procède par imitation. Donc les influences, on en a des centaines de milliers. Et la plupart du temps, celles qui ressortent quand on joue ou quand on compose, sont justement celles dont on n'a plus souvenir. C'est justement celles qui sont inconscientes. Donc il faudrait être vraiment très prétentieux ou être inconscient pour croire que la musique sort comme ça ex nihilo. Non, moi j'y crois pas du tout.
Entendu. D'où l'intérêt justement, c'est ça, de se nourrir de ce que...
On est toujours nourri par des tas de choses et qui sont aussi extra-musicales, hein, qui ne sont pas forcément que musicales. Donc en fait, la somme de toutes ces informations donne quelque chose d'a priori qui doit être personnel, inédit, bien sûr. Mais oui, moi, J'écoute un peu moins de musique aujourd'hui, mais j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie. Et il y a beaucoup de choses m'ont influencé, quoi. Mais pas que le jazz, la musique classique et d'autres musiques encore. Donc,
je pensais à des albums, par exemple, comme celui avec, que Fred Pascoe avait fait donc, sur Moon River, tu vois, ou qui sont aussi beaucoup d'hommages, parce qu'il n'y a pas énormément de compositions, c'est souvent des reprises.
Beaucoup de reprises, ouais.
Mais j'imagine que quand on fait un album avec d'autres amis, on a aussi le même background, un peu les mêmes influences. Est-ce que ça se ressent, ça, de savoir que les gens, justement, ont été un petit peu nourris au même lait, quoi.
Oui, bah, surtout sur ce disque-là. Enfin, Moi, je participe que sur deux morceaux, hein, sur ce disque-là. Les vrais protagonistes du quartet, c'est Fred Pascoe donc à la batterie, Yoni Zelnik, Johan Oustalou et Nelson Veras à la guitare. Et le projet, au départ, a été surtout construit autour de la personnalité de Nelson Veras, qui a une personnalité musicale très originale, justement, hors norme. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur deux titres, mais j'estime pas que ce disque tourne autour de ma personne. Mais pour avoir participé, je peux dire que oui, tous ces musiciens-là, il y a aussi Laurent Koch, Jean-Luc Difraya, Adrien Sanchez, tous ces musiciens-là, on fait tous partie d'une certaine
courant
stylistique quand même. On aime tous plus ou moins les mêmes choses. Ouais. Oui, je crois que il y a des faits. De toute façon, quand tu enregistres avec des musiciens dans un studio, que tu réunis, que tu payes un studio avec des musiciens, que tu prévois un peu les choses, c'est que déjà il y a des fortes affinités avec les musiciens. Donc oui, c'est la même famille, tout ça, quand même, bien sûr. Même si il y en a qui sont plus extraterrestres que d'autres, hein, et Nelson Veras, c'est un des musiciens les plus extraterrestres avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, voilà.
Oui, c'est le guitariste brésilien, il est...
Il est incroyable, ouais, il est incroyable, vraiment.
Ouais, on l'avait écouté avec R.L. Besson,
tu sais, la trompettiste. Oui, c'est vrai qu'il joue aussi avec cette trompettiste, ouais. Il avait fait des beaux disques aussi avec Magic Malik.
Oui, c'est ça.
Il a joué avec Steve Coleman aussi. Il a fait des tournées avec Steve Coleman. Il a fait un disque récemment avec un autre guitariste là qui s'appelle. Comment il s'appelle ce guitariste américain là, un disque en duo. Ouais, ça va me revenir. Qui est connu aussi. Bref.
Mais à chaque fois, on est nourri, c'est ça aussi des rencontres des autres musiciens. Parce qu'enfin,
bien sûr.
Ouais,
bien
quelque sûr. Part.
Mais en fait, c'est complexe parce qu'il y a le travail, notre travail quotidien sur l'instrument. Il y a le répertoire qu'on travaille, les morceaux qu'on aime, les disques qu'on écoute, mais il y a aussi les rencontres et comment les autres nous influencent, les morceaux qu'ils apportent. Tiens, si tu ne connais pas ce morceau, tu le connais, ah, il est super, tiens, je vais l'apprendre, je vais le jouer avec toi. Et Lodge le joue vraiment très bien, donc du coup, on a envie de le jouer bien aussi. Il y a quand même... c'est vraiment aussi... C'est très individuel dans le sens où on doit fournir un travail individuel sur l'instrument et compositionnel qui est énorme toute notre vie, mais c'est aussi lié à beaucoup de rencontres, c'est très collectif aussi au moment de faire de la musique. Donc il y a des choses qu'on n'avait pas du tout prévues et qui arrivent, et c'est bien, ça fait... Mais encore une fois, pour que ces choses-là arrivent, il faut qu'il y ait un gros travail en amont, c'est sûr.
Et des affinités quelque part.
Et des affinités,
c'est ça le départ, qui fait que ça s'impose un peu, clairement.
Ouais.
Tu joues avec d'autres musiciens que ceux qui sont dans ce quartet ou
en fait, alors...
une espèce de fidélité à toujours ce
quartet. Alors, c'est vrai que dans mes projets, bah, je suis assez fidèle. Hein, puisque, par exemple, Fred Pascoe, ça fait 16 ans qu'on joue ensemble. Donc, quand la musique se passe bien, je suis très fidèle, moi. Je suis quelqu'un de fidèle. Et j'ai eu l'occasion de... je joue avec un autre groupe qui s'appelle Tabasco, avec les frères Richard, Loïc Richard, à la guitare. Bah, pour l'instant, on est un peu en stand-by qu'on a sorti donc, The Very Last Blues juste avant la pandémie. On avait fait le concert de promotion au Sunset, on devait partir en tournée au Canada, puis tout a été annulé, évidemment. Et depuis, c'est en stand-by, quoi. Donc on a fait deux disques avec ce groupe, Tabasco. Le premier disque, c'était The Last Blues. Et le 10 après, c'est The Very Last Blues.
Dernier pour la route.
Et j'ai aussi enregistré ce premier disque d'un guitariste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Simon Martineau, dans l'intervalle. Voilà, donc ça m'arrive. Et puis ça m'arrive aussi de collaborer avec des anciens élèves aussi, où j'enseigne. Donc récemment, j'ai fait un featuring dans un album de rock progressif, par exemple. J'ai aussi arrangé des morceaux un peu variété française funk pour un autre musicien, voilà. Donc ça m'arrive épisodiquement comme ça de sortir, on va dire, de ma zone de confort et de me risquer dans des styles que je que j'ai moins l'habitude de faire, mais c'est, ça m'intéresse aussi, c'est un challenge, quoi.
Voilà, voilà, une carrière à la Breaker, alors.
Ah, j'aimerais bien. C'est trop d'honneur. Breaker, pour moi, c'est un des...
Mais t'as vu, il a joué vraiment dans plein, plein de genres différents,
Breaker,
etc.
Là, tu viens de... Breaker, pour moi, c'est un de mes idoles, hein, Michael Breaker, et depuis très longtemps, d'ailleurs. Mais voilà, justement, Breaker, l'archétype même du musicien qui a tout réussi, pour moi, qui, est de... qui a fait école, hein, qui est devenu un grand styliste de... sur l'instrument, qui a une carrière, qui a attendu très longtemps, parce qu'il était... Il n'était pas sûr de lui, paradoxalement, et il était très humble. Donc, il a attendu très longtemps avant de faire son premier disque, sous son nom. Mais il a, je crois que Breaker, il fait de mémoire, il a dû enregistrer, je sais pas, 800 disques. Donc, c'est monstrueux, quoi. Et avec les plus grands, hein, donc on ne va pas les citer, mais il a fait énormément de grands disques, quoi. Il a été un grand musicien studio pendant très longtemps. Et après, c'est devenu un saxophoniste de jazz, entre guillemets, de premier plan. Donc, il a tout réussi. Voilà.
C'est ça.
Il a tout réussi. Et pour moi, c'est clairement, je le dis,
une référence.
Une vraie référence. En tout cas, dans les saxophonistes, il y a beaucoup de gens qui m'ont nourri. Mais je peux dire que Breaker fait sans doute partie des on va dire, des cinq saxophonistes ténors qui m'ont vraiment le plus influencé, quoi.
J'entends bien. On va écouter un morceau de ça avec du saxo, là, encore, justement. Qu'est-ce
ah bon
que tu nous proposes?
Oui, non, on avait prévu peut-être
un piano.
Ah,
allez,
oui.
Avec plaisir,
alors,
bien sûr.
Et c'est le morceau qui conclut, en fait, le
l'album.
Disque, oui. L'album, en fait, qui s'appelle The Happiness We Share, donc le bonheur
qu'on partage.
Que l'on partage.
Happiness We Share.
Et oui, donc, alors c'est un morceau un peu particulier puisque je l'ai écrit à l'occasion du second mariage de Frédéric Pasqua, donc, qui est aussi qui est devenu avec le temps le parrain de mon fils.
Ah.
Et il s'est marié il y a 3 ans. Et à cette occasion, donc, on a joué et j'avais écrit cette composition, Le Bonheur que nous partageons, voilà, qui est un morceau, comme on l'a entendu, très gai, très joyeux, quoi.
Oui. Ouvert, optimiste,
ouais. Optimiste, voilà. Et c'était important aussi pour moi de terminer ce disque sur une note optimiste parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un disque apaisé, heureux, plein d'émotions, mais d'émotions positives, quoi. Et tu vois, on en parlait en antenne. C'est un disque qui arrive à peu près. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 20 ans que je fais j'enregistre des disques, mon nom. Et c'est je dirais que ce disque-là a un petit peu une saveur particulière dans mon parcours, quoi. C'est un disque un peu à part, quoi, je pense.
Qui méritait d'être fait, mais tu savais pas quand et les conditions se sont présentées. Tu disais des fois même pour des raisons un peu extérieures. Tu disais l'histoire de quoi.
Et je pense qu'au-delà de ça, il y a une. Je sais pas, après moi je suis pas forcément la meilleure personne pour parler de mon travail parce que je suis né dedans. Mais il y a un carrefour, une synthèse de plein de choses dans ce disque que je voulais faire partager. Et j'aime beaucoup ce disque, quoi. Je trouve qu'il est, voilà, il est très personnel, quoi. Et en plus, pour une fois, j'ai rajouté quelque chose qui pourra intéresser les musiciens, c'est qu'il y a un QR code
Ah oui.
au dos du disque. Alors, je sais bien que c'est à la mode en ce moment, le QR
Voilà,
code.
ben, si t'as pas ton QR, tu vois,
Voilà,
t'es
c'est ça, t'es
rien
nobody.
maintenant.
Mais là, c'est un QR code quand même plutôt positif, puisque les gens peuvent flasher donc, le QR code à l'arrière du disque. Et en fait, j'ai mis pendant un an, il y aura toutes les partitions en PDF
Ah oui.
disponibles gratuitement de mes études pour piano. Donc les gens, s'ils ont envie de les jouer, ils pourront télécharger les partitions en PDF et les
Super.
jouer. Voilà.
D'accord, ben voilà. Soyons modernes.
Voilà, et un petit mot aussi sur la pochette, parce que
Oui.
la pochette de ce disque-là, en fait, a quelques similitudes avec mon
Nouvelle
disque
ère.
Nouvelle Ère. Et pour cause, en fait, c'est que c'est Julien Momenceau, un ami qui habite à Paris, qui a travaillé sur les deux pochettes. Et les deux pochettes ont été supervisées donc, par ma compagne, Anna Le Werf, qui, voilà. Donc, en fait, il y a vraiment une unité aussi visuelle, quoi.
En effet, mais tu vois, regarde, je pensais simplement en parlant un petit peu d'une chose qui est un petit peu différente, mais pas si loin, par exemple, le label OCM. Toutes les
Oui.
pochettes ont un point commun, si tu
Ah
veux,
oui,
quelque
bah
part, qui donne de la saveur, enfin,
oui.
que
Oui.
ça prépare un petit
Bien
peu à ce
sûr,
qu'on va écouter.
ouais.
Et en effet, alors, on est à
Alors,
la radio, mais elle est
dis-moi alors
jaune,
ce que ça
elle.
t'évoque, alors. C'est
Alors,
intéressant.
non, ce qui est quand même assez sympa, quand même, hein, on va vous le dire, mais c'est que on arrive, là, on s'est donné rendez-vous. Là, ici, dans le studio, on était tous les trois habillés en orange, toi. Et le disque, qu'est-ce qu'il est? Il est dans
Voilà,
un
mais oui,
jaune orangé,
voilà.
etc. Donc, il y a quand même une note optimiste, parce que tu parlais
Couleur
de
or
ces...
aussi, enfin, pour moi c'était comme un disque d'or, il y a quelque chose de précieux, quoi, et quelque chose de dynamique pour moi aussi. Voilà, pour moi c'est un disque, et en même temps il y a une espèce aussi de synthèse et presque d'austérité dans la pochette, de
Oui,
minimalisme, on va dire,
on peut le dire, oui.
qui, je
Et de
trouve, encore
stylisme.
une fois, correspond aussi à la musique qui est à l'intérieur. C'est-à-dire toujours ce souci pour moi du fond et de la forme, c'est-à-dire que pour moi la pochette doit
Évoquer déjà ce que le
titiller un
contenu.
peu, mais aussi en même temps rappeler un petit peu le contenu aussi quelque part. Donc j'espère en tout cas, voilà.
Il y a la fameuse phrase, You don't judge a book by the cover. On va pas juger un livre par sa couverture, mais quand même, ça le suggère quand même. Voilà, ça donne une
En tout
indication, comme
cas,
le titre, comme tu disais, des morceaux,
je
toi.
pense qu'on est tous influencés par la pochette, quoi. Je veux dire, quand on prend un disque ou un bouquin, bah, la pochette peut nous donner envie de lire ou d'en savoir plus, et peut aussi nous dire non, j'ai pas envie, quoi. Ça peut nous repousser aussi.
Je suis tout à fait
Enfin,
d'accord.
c'est surtout à l'ère de la dématérialisation de la musique, quand on fait une pochette, c'est justement pour la rendre sexy et pour rappeler l'auditeur en lui disant, vas-y,
J'entends bien.
ouvre un disque, achète un disque, ne fais pas que télécharger la musique. La musique a une histoire, un vécu.
Tu parles à des convaincus. Nous, on a à voir nos petites les disques dans les mains, aller voir. En plus, c'est chargé d'informations, quoi. Tu vois,
C'est un objet, oui, un
non,
objet.
puis
Bien
il y a
sûr
un
que c'est un objet,
support,
il y
le
a une
support
histoire.
papier de
Mais bien sûr, il y a une
la
histoire, il y
pochette,
a une
etc.
mise en forme, il y a des infos. Oui, voilà, et c'est important, quoi. Et je le dis d'autant plus un peu tristement parce que je me rends compte que nous, les musiciens, on vend beaucoup moins de disques aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à une époque, il y a
Bah, tu
20
les vends dans
ans,
les studios, dans les concerts, je veux
ben, on
dire
les vend
plutôt.
comme avant, mais sauf qu'il y a 20 ans, quand je venais faire un concert ici, j'en vendais 15-20, et aujourd'hui, j'en vends 3-4. Et pourtant, le public n'a pas changé et tout. C'est juste que les habitudes, les mœurs ont changé. C'est que, en
Et c'est pas
fait,
que le prix a
non, c'est que les
augmenté
gens
autant.
n'achètent plus de disques. Ils ont plus perdu. En fait, on est dans une société où on a gavé les gens de musique. Et certains, donc, payent un abonnement à des plateformes
Exact.
tous les mois. Donc, ils se disent, ben, moi, c'est bon,
Je
je
m'en
m'en
fous,
fous,
je
je
l'ai
l'ai
comme
comme
je
je
veux,
veux.
c'est
Voilà,
ça, ça va
donc,
gérer.
effectivement,
C'est ça.
le problème, c'est qu'on sait que ces plateformes ne reversent pas correctement aux musiciens. Donc, nous, on a besoin de vendre l'objet physique. Donc, moi, voilà, j'adresse un message. Si vous aimez la musique, continuez à acheter des disques, c'est important pour nous. C'est comme les libraires ou les écrivains, acheter des livres.
Absolument.
Mais voilà, c'est vraiment, ça c'est de la politique, c'est soutenir les gens, quoi.
Et où on trouve ton disque? Raconte-nous
Alors,
alors.
mon disque sortira le 9 septembre, donc
Tout
sur toutes les
bientôt.
plateformes numériques. On pourra soit le télécharger, l'acheter, le télécharger, soit le commander physiquement sur Bandcamp.
Parce que le label, c'est quoi alors?
C'est Clapson, en fait. Clapson. Clapson Records, qui notamment travaille avec par exemple Akelele Woubé, qui est un groupe de musique groove éthiopien qui est assez célèbre, et c'est Pierre Dachery qui s'occupe de Clapson Records. Et donc les gens pourront commander, acheter numériquement le disque sur les plateformes à partir du 9 septembre ou le commander physiquement.
Mais il y a quand
Et
même
si
des
les gens
disquaires
veulent,
quand même qui
alors
le...
si les
Voilà.
gens veulent le commander d'ici là, il y a deux moyens. Soit ils deviennent amis avec moi sur les réseaux sociaux, Facebook et en messagerie privée, ils me donnent leur adresse et je leur envoie le disque. Soit aussi, je vais en laisser quelques-uns dans la région ici.
Chez les bons disquaires.
Par exemple, je dois aller à la Carline, Poivre d'Inde. Peut-être que s'ils nous écoutent et peut-être qu'ils ont envie de participer, j'en laisserai quelques-uns aussi. Si les gens d'ici préfèrent l'acheter dans les lieux culturels.
Oui, c'est souvent une tradition ici.
Voilà. Ouais. Ben voilà. Donc je suis là encore quelques jours et je pense que j'irai en déposer quelques-uns.
C'était une bonne idée. Ben écoute, on va peut-être conclure avec justement, puisque tu parlais des musiciens avec lesquels tu as joué, on va prendre un morceau de Tabasco.
Si vous voulez.
Voilà.
Une composition, je crois, de Loïc Richard, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fès.
Ah, encore une ville, ça.
Encore, voilà.
Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous dire de rester fidèle à notre émission Bulle de Jazz. On est très heureux aujourd'hui d'avoir eu Robin Nicaise pour présenter son nouvel album. Et puis,
tout comme il vous l'indique. Pour moi, Philippe et Outé, vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens ici. Et j'espère que cette émission Bulle de Jazz, je l'écoute régulièrement depuis au moins 15 ans. Donc voilà, longue vie à votre émission.
Bah, je t'en remercie
merci
beaucoup. Voilà.
Ouais. Et puis, on a passé un bon moment
à la classe.
Ouais.
Merci.